Un jour, il va dans le désert et il voit quelqu'un qui ramasse du bois. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis un mort. Et donc ça, ce sont des sources très très vieilles des sages d'Israël qui nous disent qu'il y a un impact de ce que fait l'enfant sur les parents. Le Kaddish, c'est une prière extraordinaire qui a une faculté de sortir l'âme du défunt de l'enfer, et non seulement cela, mais la faire monter de monde en monde. Le lendemain, elle va à la banque, elle va voir le caissier, elle donne le chèque au caissier, le caissier voit ça, il ne comprend pas, il regarde bizarrement tout ça, attendez, ne bougez pas. Alors le directeur voit le chèque, il tombe dans les pommes. C'est voit nous sur place. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Chai Victor Ben Marcel, Zohan Levracha, de mémoire bénie. Alors, la personne qui a commandé ce cours demande qu'on parle de qu'est-ce que c'est ce principe de Ilui Neshama, que des gens vivants peuvent faire des actions qui vont causer l'élévation de l'âme de défunts. Et bien sûr, ça concerne principalement la descendance du défunt. Quelles sont les sources? Comment ça fonctionne? Il faut savoir que quelqu'un, tant qu'il est en vie, il peut agir. Une fois qu'il est mort, c'est terminé. C'est écrit, maître obshim la mitzvot. Il est libre des mitzvot, il ne peut plus faire. Même s'il paye des millions de milliards là-haut, ça ne marchera pas. On vit une fois, même si on revient en Gilgoul, on revient en réincarnation, c'est nous et pas nous. C'est une partie de l'Neshama, mais à la résurrection des morts, c'est marqué, chaque corps va se lever avec son âme et les mitzvot qu'il a fait. Donc si maintenant quelqu'un, il lui manque des mitzvot. Terminé, il ne peut pas les récupérer. Par contre, c'est écrit dans le Talmud, des Sanhedrin, Bra Mezake Abba. Le fils peut faire mériter le père. C'est écrit aussi quelque autre part que le fils, il est comme les pieds du père. Quand quelqu'un il est vivant, alors il est appelé un marchand. Il avance dans la vie. D'accord, il peut aussi reculer, mais il peut avancer. Les anges sont appelés des Omdim, des gens qui sont debout, ils ne bougent pas. Un ange, il n'a pas libre arbitre. Il a ce qu'il est, d'accord? Il ne peut pas rajouter sur ce qu'il est, il ne peut pas non plus retrancher de ce qu'il est. Il est dans les mains de Dieu total, il ne peut pas faire un millimètre de milligramme autrement que ce que Dieu lui a ordonné. Donc il n'est pas, et c'est quelqu'un qui est statique. L'être humain, il avance, et c'est écrit que les enfants sont les pieds des parents. C'est-à-dire qu'une fois que les parents sont décédés, alors les parents peuvent encore avancer dans le monde à venir, le monde des morts, par le fait que leurs enfants avancent. Et vu qu'eux ont suscité les enfants, donc quelque part, mon fils qui va faire des choses, je suis pour quelque chose, vu que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai éduqué, même si je n'ai même pas éduqué, d'accord? Ça veut des fois quelqu'un, je ne sais pas, il a pas pu éduquer son fils, ou il est mort, ou il a abandonné, quoi que ce soit, mais par le simple fait qu'il a mis au monde, il a déjà un mérite dans les actions que feront ses enfants, et ses petits-enfants aussi. Il a un certain mérite qui continue. C'est écrit dans Or Zarua, un très grand rabbin du Moyen-Âge, Ashkenaz, dans Ilchot Shabbat, chapitre 3, une histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un jour, allait dans le désert. Et tout d'un coup, il a vu un type tout noir, qui portait une charge très très lourde, comme ça, de bois, et courait. Et bien, il appelle, type fois tu courir, je suis Rabbi Akiva, je t'ordonne de t'arrêter. Oh, il s'arrête. Il dit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, moi je suis un mort. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai une punition parce que j'étais un rachat, un mécréant, et je dois tous les jours, comme ça, on me met une charge dans le dos et je dois courir comme ça dans le désert. Il dit, Rabbi Akiva lui a dit, tu as laissé au monde un enfant? Oui. Il est où? Comment il s'appelle? Il lui a dit, ok, je m'en occupe. Il a recherché l'enfant, il l'a trouvé. C'était un grand ignorant, un cancre, d'accord, il ne sait absolument rien, comme son père. Et il a pris au Beth Midrash, il a commencé à lui enseigner à l'Efbet, à lire. Il a appris à faire le Birkat Amazon. Il a appris à lire le Kaddish, et quand le fils a commencé à dire le Kaddish, le père est venu en rêve à Rabbi Akiva, lui dit, je te remercie beaucoup, ma peine maintenant a été abolie, c'est fini, je n'ai plus rentré dans le paradis. Donc c'est une des sources comme quoi, nous voyons, il y a une autre source du même genre aussi, c'est écrit dans le Eliyahu Zuta. Eliyahu Zuta, c'est un Midrash, qui est écrit aussi au moins il y a 1600 ans, 1700 ans, il a écrit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, même histoire, un jour il va dans le désert et il voit quelqu'un qui ramasse du bois. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis un mort. Et pourquoi tu fais ça? Ben, je suis puni. Moi, j'avais un copain et on faisait la fête ensemble, on faisait des tas de péchés, on invitait des filles chez nous, on faisait tout ce qui est interdit de faire. Et maintenant, je dois ramasser du bois. Avec ce bois, on va brûler mon ami. Et lui, il ramasse du bois. Avec son bois, on me brûle à moi. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai lui a dit, est-ce que tu as laissé quelqu'un dans ce monde, un enfant? Et oui, quand je suis mort, ma femme était enceinte, je sais que c'est un garçon. Rabbi Yochanan Ben Zakkai prend les coordonnées, il va, et il trouve exactement ce garçon, et aussi il va lui enseigner, etc. Et lorsque le garçon a dit Baruchou à la synagogue, il a dit Baruchou Tachem Avorach, et le Sibou a répondu Baruchou Tachem Avorach Lamvaed, à ce moment-là, le mort est venu en rêve, il lui a dit, voilà, dès maintenant, on m'a sorti de ma peine, et je peux rentrer dans le paradis. Donc ça, ce sont des sources très très vieilles. Des sages d'Israël qui nous disent qu'il y a un impact de ce que fait l'enfant sur les parents. Maintenant, même un étranger peut faire. Si moi je décide, voilà, je suis en train de faire un cours maintenant pour l'élévation de l'âme de Chaï Victor Ben Marcel, bah, ça a un impact, c'est clair. Ça a surtout un impact parce que les gens qui ont donné l'argent aussi pour qu'on fasse, on demande participation, d'accord, alors ils font partie de la famille. Donc ça marche, mais même un étranger total. Mais il faut savoir que c'est toujours mieux que ce soit les enfants, les petits-enfants, qui fassent les actions pour l'élévation de l'âme des parents, notamment le Kaddish. Le Kaddish, c'est une prière extraordinaire qui a une faculté de sortir l'âme du défunt de l'enfer, et non seulement cela, mais la faire monter de monde en monde. Il faut comprendre qu'il y a des mondes, et des mondes, et des mondes, et des mondes, peut monter, 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 monter. Il y a un rabbin de la Chassidoute qui dit qu'on dit le Kaddish un an, puis après on s'arrête. Le Ben Ishraï, qui est un des plus grands kabbalistes de tous les temps du monde Sfarad, il a dit, même après mille ans, l'âme a encore des fois besoin d'aide du bas pour monter, monter encore de monde en monde. D'accord? Donc quelqu'un peut dire Kaddish pour ses parents, pour ses grands-parents, pour ses arrière-grands-parents, d'accord? Pendant toute sa vie. Il n'y a aucun problème à le faire, c'est très très bien. À ce propos, une histoire extraordinaire qu'a raconté le Rav Yosef Chaim Zonnenfeld. Rav Yosef Chaim Zonnenfeld, c'était un des grands rabbins, c'est lui qui a monté le Badatz. Le Badatz, Bedin Sedek de la Haïda Harit à Jérusalem, c'est lui qui a monté ça, il y a environ 120 ans, quelque chose comme ça. Il était le Sandak du Rav Meshulam Bashaw. Le Rav Meshulam Bashaw, qui est la grande génération, à sa Brit Mila, qui l'a tenu sur ses genoux, le Rav Yosef Chaim Zonnenfeld, un des grands tzadikim du peuple d'Israël. Il raconte une histoire de laquelle il était témoin. Lui, il habitait en Hongrie, à Presbourg, et il était à la Yeshiva. Et il y avait là-bas une femme qui venait tous les mois donner une somme assez importante à l'Yeshiva pour que les élèves, un ou deux élèves, qui disent Kaddish pour toutes les âmes qui n'ont pas de personnes qui disent Kaddish pour eux. Pas tout le monde a quelqu'un qui a un enfant qui dit Kaddish, d'accord? On a d'abord les enfants qui sont partis en cacahuète, ou ils sont morts, ou ils s'en foutent complètement, d'accord? Il y a toutes sortes de cas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces âmes-là? Alors cette femme, c'est son mari, elle l'envoyait, la déléguée de son mari, elle donnait de l'argent à l'Yeshiva pour qu'il y ait des gens qui disent Kaddish pour tous les morts qui n'ont pas de personnes qui disent Kaddish pour eux. Un beau jour, son mari décède, et les affaires commencent à décliner, plus l'argent. Et ça lui faisait extrêmement mal, d'autant plus qu'elle avait aussi deux filles qu'elle devait marier maintenant, puis pour moi, une fille, il faut une dot, d'accord, c'est beaucoup d'argent, elle avait plus rien. Et c'est histoire que le Kaddish allait arrêter pour tous ces malheureuses âmes qui n'ont personne qui disent Kaddish pour eux, ça lui faisait extrêmement mal. Alors, elle est allée voir la direction de la Yeshiva, et elle a dit, vraiment, je vous demande, continuez. Je ne pourrais plus donner l'argent maintenant, mais Bézat Hachem, les affaires vont remonter, je vous garantis, je vous paierai aussi en retour, voilà, tout si je pourrais, je paierai tout ce que je peux. Les Rachel Shivot, les chefs de l'Yeshiva ont été extrêmement touchés par ce qu'elle a demandé. Ok, c'est bon, on continue, ne vous en faites pas. Bon, elle sort de la Yeshiva, et elle va dans la rue, tout coup, elle voit un vieux monsieur, avec une barbe blanche comme ça, le type blanc, beau, un sadique vraiment, hein, qu'elle ne connaît pas, hein, qui lui dit, bonjour, comment allez-vous? Très bien, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas, mais comment ça se passe, et dites-moi, et puis comment vont les affaires? Je ne sais pas pour vous demander ça, mais bon, ça ne va pas du tout, les affaires, d'accord. Et puis j'ai deux filles à marier maintenant, et puis je n'ai pas d'argent pour celle-là. Ah, comment vous avez besoin? Écoutez, je ne sais pas à qui vous êtes, pourquoi vous me demandez. Bon, si vous me posez la question, je vous dis, ouais, j'ai besoin d'une belle somme, d'accord, 20 000 roubles, quelque chose comme ça. Je dis, c'est un exemple, d'accord. Tout à coup, le type, il sort un chéquier, et je lui fais un chèque de 20 000 roubles. Tenez, c'est pour vous. Mais il se peut qu'il y aura des problèmes quand vous voudrez encaisser le chèque. Donc, amenez maintenant deux témoins, deux élèves de la Yeshiva, pour qu'ils voient que c'est bien moi qui ai signé. D'accord? Elle va appeler deux élèves. Et ici, regardez que c'est bien moi qui signe. Regardez bien ma tête. Je signe. Et là, elle aura fait aussi sur un petit papier. Il a refait sa signature. Elle a mis son nom. Elle a mis la signature. Il dit à la femme, demain, vous allez à la banque Intel. Et vous recevez tout l'argent. Alors, phénoménal, d'où vient ce monsieur-là? D'accord? Bon, Baruch Hashem, très très contente. Le lendemain, elle va à la banque, elle va voir le caissier, elle donne le chèque au caissier, le caissier voit ça, il ne comprend pas, il regarde bizarrement tout ça, attendez, ne bougez pas. Alors le directeur voit le chèque, il tombe dans les pommes. C'est venu sur place. Sur place, on attrape la femme, on la met son chambre, on ferme, ne bougez pas, attention, les flics, qu'est-ce qui se passe? Il y a une affaire, un truc, c'est pas clair. Bon. Le directeur se réveille et dit, faites-la entrer. Fait entrer, il dit, est-ce que si je vous montre une photo de la personne qui a fait ce chèque-là, vous serez capable de la reconnaître? Mais bien sûr, il y a aussi des Bachur Yeshivot, on peut les amener, ils pourront vérifier cela. Ils amènent une photo et ils montrent la photo du type qui était le vieux monsieur avec la belle barbe blanche. Et le banquier dit, ok, c'est bon, vous avez l'argent, prenez. Au revoir, madame. Au revoir. Bon, tous les employés demandent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Écoutez, c'est mon père. Mon père, c'est Ronan Levracha, qui est mort il y a 10 ans. Il est venu cette nuit en rêve. Il m'a dit, pauvre type, c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit dans l'histoire, d'accord? C'est moi qui rajoute, pauvre type. Pauvre type, depuis que tu te maries avec cette Goya, t'as arrêté de dire Kaddish pour moi, et moi je souffre terriblement dans l'âme abba. Grâce à cette femme qui payait des élèves pour dire le Kaddish pour les personnes pour qui les enfants ne disent pas Kaddish, grâce à elle, j'ai pu sortir de l'enfer et monter encore dans le paradis. Et j'ai vu que tu faisais rien du tout. Et puis elle avait plus d'argent maintenant pour dire le Kaddish, donc. Je vais la voir hier, je lui ai donné tout l'argent, et je lui ai dit qu'elle allait te voir et que tu lui donneras tout l'argent. T'as très bien fait. Le type, il raconte que c'est levé le matin, il a raconté ça à sa femme, la Goya, qui a rigolé. D'accord. Et là, maintenant, tout le monde a vu que c'était vrai. Le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, ce grand tzaddik, donc, a créé le Badatz. Pourquoi c'est lui qui raconte cette histoire? Il dit, un des deux élèves qui sont venus, c'était moi. Avec mon ami qui s'appelle Yuda Greenwald. D'accord? Donc on a un témoignage extraordinaire. Même les gens sont venus en lama bas, sont venus en chair, en os, on peut dire d'accord, pour qu'on dise Kaddish pour eux. Donc il y a une importance colossale à dire le Kaddish pour les parents et grands-parents qui sont décédés. Et comme je dis, on peut le dire toute la vie, il n'y a aucun problème. C'est très bien de le faire. Non seulement le Kaddish, mais chaque action que la descendance va faire ou quelqu'un décide de faire pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, ça a un impact. C'est écrit dans la source, c'est le Psikta. Psikta, c'est un midrash qui a été écrit il y a 1800 ans. On a un verset dans la Torah, lorsqu'on a trouvé un mort, on ne sait pas, un mort dans les champs comme ça, on ne sait pas comment ça s'est fait, alors les sages de la ville la plus proche viennent et disent certains versets et tuent une égla, un veau sur place, pour qu'il y ait une capara, expiation des péchés d'Israël. Et ils disent le verset, « Kaper la mecha Israël, expie à ton peuple Israël, asher padita que tu as libéré. » Le psikta est dit, « Kaper la mecha Israël, expie à ton peuple d'Israël, ça c'est l'argent que les gens donnent en tzedaka, ça expie leurs péchés. Asher padita que tu as libéré, ça c'est quand les enfants des défunts donnent de l'argent pour le défunt en tzedaka, ça libère les défunts. Donc c'est aussi une grande chose que donner la tzedaka pour l'élévation de l'âme des parents ou grands-parents ou de personnes étrangères. D'accord? C'est certain que ça agit. Le plus, la mitzvah la plus grande que quelqu'un peut faire, il y a beaucoup, il y en a qui offrent un Sefer Torah, il y en a qui offrent une yeshiva, il y en a qui offrent un mikvé, il y en a qui offrent... Mais le plus, c'est l'étude de Torah. On sait que la mitzvah la plus grande qu'il y a dans toute la Torah, c'est l'étude de Torah. D'accord, c'est la mitzvah la plus grande de toutes les mitzvot. Et lorsque des gens donnent de l'argent pour que des gens étudient la Torah, c'est ça qui fait le plus d'effet. Là, je vous raconte à ce propos d'ailleurs une histoire dont j'ai vu la personne elle-même. C'était, je cite, en 35 ans, 40 ans, d'accord? Non, peut-être 35 ans, d'accord? Une dame qui a fait tchouva, qui raconte qu'elle était au Canada, une israélienne, et elle était non religieuse. Et elle commençait un peu à se rapprocher de la Torah. C'était l'hiver, c'est les vacances de ski, d'accord? Et je vais partir aller faire du ski dans la campagne montréalienne. Et je vais partir Shabbat. Elle dit à son mari, tu sais quoi? Eh bien, on part dimanche. Demain, je ne vais pas partir Shabbat. Je m'en dis, pourquoi? Qui, quoi, comment? Bon, pour faire un bon mari, il accepte. Ok, il part dimanche. Et quand il commence à partir, il commence à neiger. Elle raconte... Ils vont sur la route, puis il y avait un pont, et tout à coup la voiture, elle prend un mauvais angle comme ça, tchic, elle tombe dans le précipice. Ta, 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 elle voit son mari qui reçoit comme ça, le volant dans la figure comme ça, il se met à cracher du sang, mort sur le coup. Et alors tout en bas du précipice, elle avait deux enfants. Le coffre était rentré dans le siège arrière et les deux enfants étaient rentrés dans le coffre en fait. Il ne faut pas les sortir. Alors elle sort. Et elle essaie d'ouvrir le coffre. Et puis il neige, la tempête, etc. Ça ne marche pas. Alors elle dit, Dieu, pour toi, j'ai fait Shabbat. Je ne suis pas parti en vacances Shabbat. Aide-moi. Écoutez, elle ne sait pas comment. Le coffre, il s'est ouvert. Elle a pris ses enfants. Bon, il faut sortir du précipice. Elle voit, tout coup, il y a une autre voiture qui prend le même aussi, mais elle s'arrête beaucoup plus haut. Et viennent les pompiers et commencent à sauver la voiture là-haut. Puis elle crie, personne ne l'entend. Alors elle commence à klaxonner et tout. Ils l'ont vu, ils l'ont pris comme ça. Elle raconte qu'elle est arrivée là-haut et elle avait une tête déjà enflée, terrible, de tous les coups qu'elle avait reçus. Et puis elle se souvient juste qu'un des pompiers a dit c'est un homme ou une femme, elle est tombée dans les pommes. Elle se réveille dans l'hôpital, on dit que son mari est décédé. Sa mère est venue de... Elle était Kiryat Ono, ici en Israël. Elle est venue à Montréal, elle était près d'elle au lit. Et quand elle se réveillait comme ça, elle voulait les Tehillim. Elle voulait, donne-moi les Tehillim du roi David. Elle commençait à dire comme ça des Tehillim. Et de fil en aiguille, elle a fait Tshuva. Elle voit même ses deux enfants ici en Israël. Et bon, mais Tshuva, cool quoi. Les enfants continuent à aller à l'école, pas cachère, l'école laïque. Et un beau jour, elle va dans la rue comme ça, qui retourne. Tout à coup, il y a une voiture pleine de religieux. Ça ne veut pas que des religieux à qui retournent. Non, d'accord, les orthodoxes. Je dis, c'est où la synagogue un tel? Je connais, je ne sais pas, il y a une synagogue comme ça, mais dites-moi l'adresse. Alors, ils lui disent, ok, bah, prenez-moi dans la voiture, je vous emmène là-bas. Bon, on l'amène là-bas. Puis elle arrive en bas, j'aimerais bien aller voir le rabbin de la synagogue. Elle rentre dans la synagogue, elle parle au rabbin. Et le rabbin commence à lui expliquer, voilà, qu'effectivement, c'est très bien qu'elle a fait tchouva, mais les enfants, ça vaut la peine de changer d'école, etc. Il commence à lui donner des cours, etc. Et bien, franchement, elle fait une tchouva totale, et elle décide de sortir les enfants de l'école laïque, la mettre dans l'école religieuse. Et bien, franchement, les enfants arrivent très bien, ils sont très bien acclimatisés à cette nouvelle école, et ces enfants étaient des très bons élèves. Puis un soir, elle raconte qu'elle voit son fils malheureux, en train de pleurer. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Demain, j'ai un examen sur les Mishnayot, la Mishnah. J'ai rien compris. Elle est très embêtée, elle ne comprend rien, le mari n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, et le gosse, il sort, il va dormir tout malheureux. Le lendemain matin, il se réveille, tout souriant. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman, ben voilà, papa est venu cette nuit, en rêve, et il m'a dit que depuis que je suis rentré au Cheder, j'apprends les Mishnayot, lui aussi, on l'a sorti de l'enfer, on l'a mis au paradis. Et ce que j'apprends, il apprend aussi. Et m'a dit, quelle Mishnah tu as demain? Je lui ai dit, bien, on va l'étudier ensemble. Il m'a tout expliqué. Le gosse a été à l'examen, il a eu 100 sur 100. Il n'avait rien compris à la Mishnah, il a eu 100 sur 100. Donc le père lui a bien, bien expliqué cela. C'est un exemple, parmi tant d'autres, que l'impact qu'ont les enfants sur les parents. Et l'étude de Torah, c'est ça. Ce que tu fais comme Mitzvah, mon fils, moi aussi je le fais là-haut, car c'est quelque part grâce à moi que tu étudies. D'accord, le père ne l'a jamais enseigné la Torah, mais il a mis au monde. Et donc il y a une relation, et c'est un peu comme je dis, les enfants sont appelés les pieds des parents. Il y a une histoire que j'ai racontée, on l'a mis sur les réseaux, qui est arrivée il y a 3 mois, c'était quand on était avec la yeshiva à Rashbi, il y a 3 mois environ. J'ai un bon ami, dont le père est décédé il y a 20 ans environ. À l'époque, il avait offert un Sefer Torah pour l'élévation de son âme. Et il m'appelle. Il y a 3 mois, le copain il me dit, écoute, je ne sais pas, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de mon père. Il avait pas l'air content du tout. C'est tout. Mais il ne m'a absolument rien dit. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je pense qu'il t'a fait un appel. Au secours, aide-moi. J'ai besoin de faire des mitzvot pour que je puisse encore m'élever là-haut. Ok. Il m'appelle une semaine plus tard. Il me dit, tu sais ce qui s'est passé? Il y a un an, on était à la synagogue, c'est une synagogue très connue des Français à Beit Vagan. Et le gabbai a dit, on aimerait rénover maintenant tous les meubles de la synagogue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à financer ça? Alors je lui ai la main, je dis, ouais, moi je finance, pour l'élévation de l'âme de mon père. C'était il y a un an déjà. Mais en fait, rien ne s'est passé. Ils n'ont pas trouvé exactement la personne qui ferait les meubles, et qui, et quoi. Bon, et ça n'avançait pas. Et il me raconte, il m'a appelé, je me souviens bien, c'était un jeudi. Il me dit, mercredi matin, le gabbai m'appelle au téléphone, il dit, c'est bon, paye. Quoi paye? Il y a un nom qui est passé. Oui, on a eu des ennuis, machin, qu'est-ce qu'on a pu faire? Voilà, maintenant, voilà, c'est ça, ça coûte tant et tant. Alors mon copain dit, bon, je me suis engagé, je paye. Alors, je paye, voilà, il a fait le chèque pour l'élévation de l'âme de mon père. La même nuit, la nuit du mercredi au jeudi, il me raconte, il rêve, il roule en voiture. Il s'arrête à un feu rouge, il voit quelqu'un, il entend quelqu'un qui tape comme ça sur le pare-brise. Il se tourne, il voit son père. Il descend le pare-brise, son père ne lui dit rien, il lui serre la main avec un grand sourire et part. La même nuit. Donc c'est clair qu'il y a un impact des actions des enfants sur leurs ancêtres. Et évidemment, dans les deux sens, si Chas Shalom, un enfant, il va faire des histoires terribles. Il y avait un des plus grands sages d'Israël, il y a trois, le plus grand, il y avait deux grands de la génération, c'était il y a 300 ans. Un c'était le Yabes et l'autre c'était le Rav Yonatan Eibschitz. Très très grand sage d'Israël. Rav Yonatan Eibschitz, il avait un enfant qui avait une très bonne tête. Et vers 18 ans comme ça, l'enfant lui a dit, papa, je veux aller en vacances, je veux aller à Londres. Bon, le père, hélas, a accepté. Et le gosse, il va à Londres pour un ou deux mois, et il commence à faire un peu de business. Et Baruch HaShem, il s'est une bonne tête comme son père, il fait du bien, il commence à faire de l'argent, d'accord. Il envoie une lettre à son père, je reste encore un peu, c'est dommage de ne plus venir maintenant, bon, il reste là-bas. Et le pauvre garçon est devenu très riche, il s'est même acheté le titre de Lord, et il a changé même de nom, Lord Wolf, comme ça il s'est fait appeler. Évidemment, quand tu es très riche, tu n'es pas marié, tu es à Londres, tu commences à fréquenter, il couchait avec ses femmes de ménage et les machins, bon, il part complètement en cacahuète. Pourtant, le père qui est décédé, et lui continue à faire les 400 000 coups. Puis une fois, il est au milieu de la. En train de dormir, c'est la nuit de Kippour. Il ne lui fait pas Kippour, il ne fait rien du tout. Il voit son père qui vient lui, t'as pas honte. Tu sais combien je souffre dans le ciel, quelle honte tu me fais. Je vais t'étrangler maintenant. Si tu ne fais pas tchouva, je t'étrangle. Il commence à l'attraper comme ça. Ah, il se réveille. Oh. Bon, c'est des bêtises ces trucs-là. Il va se faire un thé, Yom Kippour. Un chi, d'accord. Il boit son thé. Allez, de nouveau dodo. Le père revient. Tu crois que c'est un rêve? Je vais t'étrangler pour de bon. Il commence comme ça. Ah, de nouveau, il se réveille. Non, c'est pas possible, cette histoire-là. De nouveau, le chi. Et maintenant, il va dormir. Le père vient. Ce coup-là, c'est fini. Je t'étrangle. Il commence à l'attraper comme ça. Il étrangle. Il se réveille en bas du lit et il voit que toute sa gorge, c'est vraiment tout rouge comme ça. Il voit des marques. Il dit, oh, c'est pas une blague, ça. Il est à la synagogue. Il a fait une chouva totale en pleurant. Donc on voit, un, que des fois c'est des mérites rares, c'est un petit de congénération, et le mérite de venir faire la leçon à son fils, c'est rare que ça arrive des choses pareilles, sinon beaucoup de gens feraient tchouva, hein. tous les rechaim qui se baladent ici dans ce monde-ci, ils feraient tchouva, les parents viennent là-haut et lui dire, mon cher ami, à cause de toi je souffre. Mais on voit aussi que les enfants peuvent faire très honte à leurs parents dans la maba. Donc il y a une histoire de Kibboud Av Ve'Em, d'honorer son père et sa mère. Et c'est écrit dans les livres que il faut honorer son père et sa mère quand ils sont vivants et quand ils sont morts. Quand ils sont morts, par le Kaddish. Mais les livres disent le meilleur moyen de faire la mitzvah de Kibboud Av Ve'Em à ses parents qui sont décédés, c'est être un bon juif. Étudier la Torah, dire le Kaddish, faire bien les brachot. On voit bien qu'une bracha, qu'est-ce qu'on fait le jour des 7 jours de deuil et des 30 et l'année, chaque année, faire aux gens des brachot, d'accord? Ça a aussi un très grand impact pour faire monter l'année Shama. Il faut bien dire la bracha, lentement, avec conviction, pas brrr, d'accord. Si quelqu'un dit brrr, la bracha, c'est rien. Peut-être même il a dit le nom de Dieu en vain. D'accord. Mais si les gens se comportent bien comme il faut, c'est le plus grand iloui neshama, la plus grande élévation d'âme qu'ils peuvent faire pour leurs parents. Baruch Hashem, qu'on puisse faire beaucoup, beaucoup d'élévation d'âme à nos ancêtres et que nos enfants en fassent beaucoup à nous-mêmes une fois qu'on aura besoin de cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, v'amen.